On a parlé de garderie cette semaine. Il y a parfois des ironies hein, du sort. Par exemple, Alexis Samson est allé faire un tour à un congrès qui est tenu par des dirigeants de garderie, des dirigeants de CPE. Bon, dirigeants de CPE qui se réunissent à congrès, dans un grand congrès. Et en même temps, je lui avais demandé de vérifier des informations qui nous avaient été envoyées par des éducatrices en garderie qui ont de sérieux problèmes. Et bizarrement, là, ça a pas l'air d'être à l'horaire des dirigeants de CPE dans leur congrès. De quoi parle-t-il dans leur congrès? Peux-tu nous le rappeler, Alexis?
Ben oui, ça commence par un cocktail. Cocktail à 3000 $. C'est le cocktail d'accueil pour accueillir tout le monde. Et ensuite, il y a 4 heures de réseautage, notamment réseautage pour les dirigeants de CPE. Et il y a plusieurs ateliers qui sont beaucoup plus intéressants les uns que les autres. Moi, j'avais un coup de cœur pour maximiser l'utilisation de LinkedIn et des réseaux sociaux dans la gestion d'un CPE. Ça dit que...
Dans la gestion d'un CPE, LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. Oui. L'idée, dans un CPE, tu dois servir des enfants, en théorie.
Ben, écoute, ça nous dit, oubliez les présentations traditionnelles. Annie vous propose un atelier de type fishball où l'idée de base est de réfléchir ensemble en tant que gestionnaire à l'utilisation de LinkedIn et des médias sociaux en milieu de CPE.
Ça sert à un directeur de service de se trouver une autre job de directeur de service. C'est à ça que ça sert.
Ouais, c'est pour recruter puis se présenter. Là. Je pense que t'as pas d'éducatrices sur LinkedIn.
Non, t'as pas beaucoup d'éducatrices en garderie sur LinkedIn, puis t'as pas beaucoup d'enfants et de parents non plus.
C'est ça. Il y a un atelier aussi pour mobiliser l'intelligence, puis il y a toutes sortes de choses, là.
OK. Est-ce qu'il est question de la place 05 ans, cette espèce de faux guichet unique qui sert essentiellement à prendre de l'argent des garderies et à l'utiliser à nourrir une bureaucratie sans donner aucun service efficace?
Ben écoute, selon l'horaire du congrès que j'ai réussi à avoir, non.
OK. Rien. Parce qu'on a déjà démontré ça en onde ici. Et évidemment, le nouveau ministre des garderies, là, Mathieu Lacombe, il était préoccupé au début, puis depuis, il n'a plus l'air d'être préoccupé, il n'y a rien qui a bougé. On a créé un guichet unique qui, en réalité, n'est pas unique. Les parents doivent quand même faire des démarches individuelles auprès de toutes les garderies. Et la seule chose que ça donne, c'est qu'on prend de l'argent qui devrait aller aux enfants et on le donne à une bureaucratie pour la faire vivre.
L'idée de base était-elle bonne, à ton avis?
L'idée de base était intéressante. Mais ça a été complètement... La bureaucratie s'est emparée de ça, puis ça ne rend pas les services que ça devrait rendre. Alors ça fait pas partie des soucis
non,
des dirigeants.
Il n'y a rien au menu.
Autre souci d'une éducatrice qui m'explique qu'ils sont aux prises avec des parents bougons, des parents qui ne payent pas, et à partir du moment où le parent ne paye pas, le ministère ne paye pas non plus. Explique-nous ça.
Ça, c'est une situation qui est venue à nos oreilles. Une propriétaire de service de garde en milieu familial qui nous a expliqué la situation et qui mentionne qu'il y a des parents qui fréquentent sa garderie, mais qui ne paient pas toujours. Et je vais vous laisser écouter. Elle qui décrit la situation, Benjamin, c'est la troisième extrait audio. Guylaine qui explique justement sa situation.
Ce qui se produit, c'est que les parents viennent chez nous, ils fréquentent une semaine, deux semaines, trois semaines, puis on n'entend plus parler, là. Puis souvent, pendant ces deux, trois semaines-là, il y a un retard qui s'accumule. Le parent est plein de doléances, le parent a 50 000 raisons. Des fois, elles sont réelles, mais des fois, elles sont carrément inventées. Et on se retrouve avec un service qui a été rendu à un enfant pour lequel on ne sera pas payé à moins d'être capable de justifier qu'on a couru après puis qu'on a fait des demandes répétées. Sinon, ben c'est just too bad. On a donné un service complètement gratuit à ce parent-là. On a donné le service à l'enfant. On l'a nourri, on l'a logé, on a fourni notre matériel éducatif tout à fait gratuitement. Puis ça, c'est au vu et au su du ministère de la Famille, parce qu'ils sont très bien au courant qu'on le vit régulièrement dans nos services de garde.
Est-ce que je comprends bien que ces gens-là, quand un parent ne paye pas la place que son enfant prend en garderie, l'éducatrice est obligée de lui envoyer au moins deux avertissements avant de dire, garde, je ne garderai plus ton enfant. Autrement dit, pendant un mois, elle doit fournir le service sans être payée.
Après deux semaines où elle n'a pas reçu quoi que ce soit, où elle n'a pas été payée, là, elle doit envoyer un premier avis. Et cet avis-là, elle doit attendre une semaine, donc jusqu'à l'autre vendredi, avant de pouvoir émettre un deuxième avis. Et si elle ne reçoit pas, de non recevoir, à cette deuxième avis-là. Donc, on est rendu à un mois, là. ben là, elle peut mettre fin à son contrat en toute légalité.
D'un autre côté, l'essentiel de la subvention pour la garderie en milieu familial, c'est la subvention du gouvernement. Ouais. C'est pas la part, le 7 $ quelque chose que le parent paye. Est-ce qu'elle reçoit quand même sa subvention au moins du gouvernement?
Ben, c'est parce que le responsable, celui qui est responsable d'octroyer cette subvention-là, c'est ce qu'on appelle le bureau coordonnateur. C'est un peu les commissions scolaires pour les garderies. Donc, le parent, lui, paye le 8,25 $. Et on peut soustraire à ça 1,25 $ qui s'en va au ministère. Donc, la garderie fait 7 $ net sur un enfant.
De la poche des parents.
De la poche des parents. Et si la garderie ne reçoit pas ce montant de 7 $-là, comme quoi il devrait payer, ben le ministère, c'est comme si, aux yeux du bureau coordonnateur, il n'y avait pas eu de fréquentation du parent. Tu comprends? Parce que s'il arrive, puis là, le bureau coordonnateur dit « Ouais, mais il n'y a pas eu d'argent qui est rentré pour cet enfant-là. » Donc, c'est comme si il n'y avait pas fréquenté la garderie.
Okay. Et ça veut dire que la grosse partie, qui est quoi, de 25-30 $?
29,46 $. Bon, donc 30 $.
De 30 $ que le ministère donne pour chaque place, ouais, en garderie, ça veut dire que la gardienne ne peut pas non plus toucher ça?
C'est rétroactif. Donc, dans le sens où, automatiquement, la subvention va être fournie. Comme dans le cas de cette dame-là, elle a 6 enfants à sa charge. Donc, automatiquement, on va envoyer la subvention pour les 6 enfants. On l'envoie aux 2 semaines. Le problème, c'est que là, quand le bureau reçoit les gens qui ont la liste des enfants qui ont fréquenté, ils se rendent compte qu'il y en a un qui n'a pas payé. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elle doit démontrer qu'elle a tout fait pour recevoir l'argent de cet enfant. Autrement, on va lui enlever la subvention.
OK. Donc, si le parent ne paye pas, elle risque de perdre la subvention également. Donc, c'est 37 $ qu'elle perd dans sa journée pour chaque jour.
C'est
puis
ça.
On l'oblige à tenir ce rythme-là pendant un mois.
Oui, parce que là, donc, c'est 140 $ qu'elle perd, parce que c'est 20 fois 7 $ pour le parent. Et là, elle pourrait perdre jusqu'à 750 $.
Puis elle a seulement 6 enfants.
Elle a seulement 6 enfants dans sa garderie.
Pour elle, donc, pour son fonds de roulement, c'est important.
C'est 1/6 de ses revenus. Puis là, est-ce qu'elle finit par arriver à convaincre le ministère, regarde, c'est le parent qui a pas payé?
Ben, habituellement, c'est compliqué, c'est des démarches. Elle a dit qu'elle prend des captures d'écran de toutes les fois où elle a écrit aux parents pour lui dire, écoute, tu me dois ton argent, tu me dois ton argent. J'ai communiqué avec des bureaux coordonnateurs qui me disent que habituellement, il y a pas de problème qu'on va donner l'argent et qu'on n'est pas trop obstineux à ce sujet-là. Sauf que elle veut aussi recevoir son argent du parent, le 140 $, elle aimerait bien ça le toucher, et rendu aux mises en demeure maintenant.
Ah, c'est ça. Parce que dans ce cas-là, ce qu'on lui dit, c'est t'as un contrat avec le parent. En vertu de la loi de la protection du consommateur, il doit te payer. C'est à toi de le poursuivre.
J'ai communiqué avec le ministère de la Famille parce qu'elle le pointait dans la réponse, dans ce que vous venez d'entendre. Et donc, j'ai décidé de voir, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça. Est-ce que le ministère de la Famille me dit... Je vais vous lire une partie du courriel qu'on m'a envoyé. Tout d'abord, il faut préciser que les services de garde et les parents signent une entente de service. Il s'agit d'un contrat entre un commerçant et un client. Comme tout autre commerçant, les services de garde concernés pourraient intenter des recours devant les tribunaux pour récupérer les sommes qui leur seraient dues en vertu d'ententes et de services de garde conclus avec des parents. Le ministère de la Famille n'a ni le mandat ni le pouvoir de sanctionner le non-respect d'une entente de service de garde, par exemple, le non-paiement.
Ouais, voir qu'elle va fermer sa garderie une journée pour aller en cours pour récupérer une coupe de 100 $ puis mettre les autres dans le trouble, ben non.
D'autant plus
l'argent perdu.
D'autant plus qu'on interdit maintenant à des gardiennes de se faire remplacer. En fait, la bureaucratie est devenue telle dans ce domaine-là qu'elle est obligée d'endurer un mois de perte avant de réagir, puis qu'ensuite, elle est dans un chemin de croix sur le plan bureaucratique pour essayer de récupérer la subvention du gouvernement d'une part, parce qu'on la soupçonne d'avoir fait une place fantôme, puis l'argent du parent d'autre part.
Ouais, et là, elle me dit pourtant, il existerait une solution qui est simple.
On aurait tout intérêt à savoir que le parent, c'est un mauvais payeur. Si dans la section de l'attestation de fin de service de garde reçue, l'ancienne éducatrice qui l'a remplie et qui doit obligatoirement la remettre sans délai aux parents, si elle avait une section pour indiquer qu'il y a un dû, ben automatiquement, cette feuille-là, on doit aussi la remettre au bureau coordonnateur qui, eux, pourraient avoir le pouvoir de dire, ben c'est 20 valeurs, mais tu peux pas aller, on peut pas t'accorder une nouvelle contribution réduite puisque t'as pas honoré la première demande.
OK, donc le bureau coordonnateur pourrait très bien compiler la liste des parents bougons qui doivent pas être si nombreux que ça, mais qui doivent faire plusieurs garderies dans une même année. Puis, donc, mettre en garde les gardiennes d'enfants, puis dire aux parents, désolé, là, tu payes ce que tu dois, ou ben donc, tu... dans le fond, le bureau coordonnateur, les gens qui sont réunis actuellement en congrès à Québec et qui s'occupent de LinkedIn, ils auraient là peut-être un vrai problème qu'ils pourraient, sur lequel ils pourraient se pencher.
Et j'ai parlé avec un bureau coordonnateur qui me dit qu'il gère 600 enfants. Eux, ils ont une dizaine de cas par année. Une dizaine de parents comme ça qui sont problématiques.
Ah, que c'est, tu sais, ils en ont des problèmes sur lesquels il y a une justification à se réunir. C'est juste qu'ils prennent pas les bons.
C'est ça. Aidez vos éducatrices sur la première ligne, là. Arrêtez de penser à vos structures puis à vos réseaux sociaux.
Merci beaucoup, Alexis Sanson. Il est 13h41.